Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Chaque jour, suivez-nous à la découverte de l'information régionale avec les journalistes des médias indépendants qui sont nos partenaires. Je m'appelle Jean Berthelot de l'Aglété. Nous entamons aujourd'hui un récit en deux épisodes consacré aux collapsologues dans notre région. Nous nous appuyons sur un dossier publié dans Rue 89 Bordeaux et qui s'intitule « Le monde d'après peut s'effondrer ». Et c'est pas triste, ce dossier c'est vous qui en signé l'article d'ouverture, l'éditorial en quelque sorte. Bonjour Simon Barthélémy.
Bonjour.
Vous êtes journaliste indépendant, rédacteur en chef de Rue 89 Bordeaux. Avec vous, nous allons nous intéresser aux collapsologues. Un mot d'abord sur ce qu'est la collapsologie.
Alors, collapsologie, c'est la science de l'effondrement, pour l'expliquer de manière littérale, même si certains critiquent le fait qu'on puisse la qualifier de science. Collapse, ça veut dire effondrement en anglais. Le terme a été popularisé par le livre de Jared Diamond, donc historien, anthropologue, qui avait écrit une somme donc sur l'histoire de l'effondrement de certaines civilisations au cours de l'histoire humaine, et mettant notamment en évidence les causes environnementales, entre autres, de cet effondrement et les conséquences que peut avoir la dégradation de l'environnement par les humains. Je pense notamment aux Mayas ou à l'île de Pâques, hein, dont on connaît pas encore très exactement les causes de la disparition de leur civilisation brillante, hein, mais dont on sait désormais que l'environnement a joué une place importante. Et donc ce terme de collapse, d'effondrement, a été repris par une mouvance dans laquelle tous ne se qualifient pas forcément de collapsologues d'ailleurs, mais constituée pour beaucoup de scientifiques aussi, il faut le souligner, c'est pas forcément des hurluberlus, hein. Pablo Servigne par exemple, c'est un ingénieur agronome, Yves Cochet, surtout connu pour son action politique, mais c'est un mathématicien, et tous remettent un peu au goût du jour les conclusions du rapport Meadows des années 70, les limites à la croissance, mettant en avant que bon nombre des prédictions qui étaient faites à l'époque sont en train de se réaliser. Et s'appuie pour ce faire sur tous les rapports scientifiques qu'on connaît du GIEC sur le changement climatique ou sur l'effondrement de la biodiversité, toutes les études qui montrent la disparition massive de certaines espèces, de 80% des insectes par exemple selon une étude menée en Allemagne, de 30 à 50% de certaines espèces d'oiseaux en France, et souligne donc en fait que l'effondrement que certains disent qui va peut-être arriver, d'autres qui disent non, c'est une probabilité. Il souligne qu'en fait, on se retrouve d'ores et déjà face à certaines des conséquences qu'il redoute.
Simon, un mot d'abord sur la collapsologie et le survivalisme, ce sont deux mouvements bien distincts.
Oui, alors le survivalisme, on n'a pas trop de... Il existe en France, mais il est moins développé que ce qu'on peut le voir, par exemple, aux États-Unis. Le survivalisme, c'est déjà se préparer à... grosso modo, hein, pour caricaturer, à vivre dans les bois, à s'équiper avec des arcs, des flèches, des fusils quand on en a encore, et pouvoir survivre donc, quelles que soient les conditions. Donc, il existe ce mouvement. D'ailleurs, il y a eu un fait divers dramatique, hein, cet été avec un décès dans un stage de survivalisme d'une personne qui a pas mangé un bon champignon. Donc ça existe, mais c'est pas cette frange-là qu'on s'est intéressé dans ce dossier-là. C'est plus, disons, un retour du retour à la terre, avec des communautés qui s'organisent dans ce qu'on appelle des écolieux, et qui le font, certes pour certains dans une perspective effondriste, hein, en se disant qu'il faut se préparer au monde d'après, mais pas dans une optique survivaliste.
Pendant longtemps, et vous y avez fait allusion, les collapsologues ont été vus un peu comme des doudingues, des prophètes de l'apocalypse, à l'image de cet homme avec son gong répétant que la fin du monde est proche dans l'étoile mystérieuse de Tintin, sauf qu'un battement d'ailes, alors non pas de papillon mais de chauve-souris comme vous l'écrivez Simon, est venu changer la donne. La pandémie a modifié le regard du grand public sur les collapsologues, c'est ce que vous a expliqué Clémence Marc. Qui est-elle et que dit-elle là-dessus ?
Oui, Clémence Marc de l'association Adrastia, enfin comme d'autres interlocuteurs qu'on a pu interroger sur ce dossier, elle voit le succès sur les réseaux sociaux, notamment de plusieurs pages qu'elle anime, notamment Gironde en transition, Collapso 33 et donc l'association Adrastia dont elle s'occupe. Et effectivement, avec la pandémie, l'épidémie de Covid, il y a eu tout d'un coup une prise de conscience assez brutale et immédiate. Bon, qu'est-ce qui se passerait si tout d'un coup on ne pouvait plus, enfin les rayons des supermarchés étaient vides. On voit bien, bon, l'épidémie de Covid-19 n'a pas perturbé les réseaux et le fonctionnement de notre système économique à ce point-là, mais certains s'interrogent, quoi. Qu'est-ce qu'il en aurait été si le virus avait été plus létal, plus virulent, avait vraiment atteint un peu plus profondément nos structures de production, l'entretien de nos réseaux d'eau, d'électricité, nos centrales nucléaires. Et donc, bon, ça a provoqué au début de la pandémie certains mouvements de panique. On a vu le phénomène assez hallucinant de la disparition des rouleaux de PQ dans les supermarchés, ou le réflexe un peu traditionnel de dévaliser les rayons de pâtes et de riz. Mais au-delà, ça, évidemment, beaucoup de personnes se sont interrogées. Alors, je vais enfoncer quelques portes ouvertes et lieux communs dont on a pas mal entendu parler depuis le confinement, mais de la volonté de pouvoir avoir un espace pour commencer à cultiver son jardin, etc. Mais ces réflexes un peu individualistes que ça a pu susciter ont aussi eu des traductions plus collectives, en se demandant comment peut-être on peut s'organiser collectivement pour faire face à ce qui pourrait être une situation extrême, peut-être pas d'un effondrement brutal, parce que finalement il y a peu de collapsologues qui disent ça, hein. Ils disent pas on va du jour au lendemain se retrouver avec des hordes de personnes affamées et que ça va être la guerre les uns contre les autres. Au contraire, même ils soulignent le fait que souvent c'est dans les situations de crise que les réflexes et la volonté de s'organiser prend le pas, et que voilà, c'est aussi propice à de la solidarité.
Alors, son association œuvre notamment à la sensibilisation du grand public. Elle est loin d'être la seule en Gironde. Autre témoin que vous avez rencontré dans votre article, Grégory Poinçonnet de Sorry Children. Comme les autres, lui, il mise sur la coopération pour imaginer un avenir.
Oui, et il essaie de faire en sorte que celle-ci s'organise par les institutions qui sont compétentes pour le faire. Donc sa société Mood Points, elle organise ce qu'il appelle des conférences électrochocs, qu'il mène notamment avec Pablo Servigne, dont on a parlé tout à l'heure, pour sensibiliser des élus ou des salariés de collectivités locales ou des entreprises à à toutes ces données scientifiques qu'on évoquait. Donc, ils commencent par leur présenter cela. C'est d'ailleurs un point commun avec ce que fait Extinction Rebellion, l'organisation écologiste auprès de ces nouveaux venus. C'est on part vraiment du constat qui est assez glacial quand on rentre vraiment dedans sur la situation de notre monde. C'est pas du tout de la SF hein, ce que expliquent tous ces gens. C'est vraiment ce que les alertes que tirent depuis des années les scientifiques qui sont pas entendus. Alors de temps en temps certains rapports arrivent à sonner un peu plus l'alerte que les précédents. Mais donc pour revenir aux conférences électrochocs, donc le but c'est de présenter de faire un état des lieux très 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 froid de la situation de notre planète et de non pas pour décourager les gens, mais comme le nom de la conférence l'indique, pour provoquer un électrochoc et pour inviter chacun à l'action à son petit niveau. Alors nous, les témoins qu'on a pu interroger, qui ont participé à ces conférences, ça va d'arrêter d'acheter de l'eau en bouteille pour plus boire que de l'eau du robinet, à s'engager un peu plus en avant dans son association pour les handicapés ou l'environnement, à arriver comme ça à toucher les décideurs. C'est ça, c'est de fil en aiguille, sensibiliser ceux qui sont le plus proches du pouvoir. Alors la situation a un peu changé hein, entre le moment où j'ai rencontré ces personnes et les élections, puisqu'il y a d'autres équipes qui sont arrivées en place. Mais ce que m'indiquaient notamment des élus à la mairie de Bordeaux et à la métropole, c'est qu'ils voulaient vraiment déployer ces conférences-là pour qu'il y ait une mise à niveau et que comme je répète un mot que j'ai utilisé tout à l'heure, le terme d'hurluberlu, pour que notamment les salariés, les fonctionnaires des collectivités territoriales ne pensent pas que ce que proposent les nouvelles équipes écologistes, ce sont des trucs d'hurluberlu.
C'est un aquaponiste, un faiseur de plaisantristes, qui dit toujours à quoi bon, à quoi bon. Un aquaponiste un peu trop idéaliste qui répète sur tous les tons à quoi bon.
Un mot, Simon, sur ces témoins-ci. Ils cherchent des solutions et imaginent que l'humanité peut s'en sortir. Est-ce que ce n'est pas un peu en contradiction avec l'idée même de collapsologie ?
Non, puisque l'idée de la collapsologie, c'est un signal d'alerte. C'est d'expliquer que tous les signaux sont au rouge aujourd'hui. Alors certains critiquent hein, les collapsologues pour ça, parce qu'ils disent au contraire, ça va décourager les gens de faire quoi que ce soit, puisqu'on pourrait se dire bon bah de toute façon c'est foutu, pourquoi je vais arrêter d'utiliser ma voiture tous les jours si de toute façon ça changera rien. Et ça c'est quelque chose que décrivent assez bien justement des gens comme Grégory Poinçonnet, qui parle d'une phase d'aquabonisme chez les gens quand ils découvrent un peu la réalité de la situation et les chiffres. Mais derrière il y a la possibilité de réagir, donc il n'y a pas vraiment de contradiction entre les deux. Ce sur quoi certains s'interrogent, je pense notamment à Philippe Biwix qu'on a interrogé pour ce dossier, donc qui est un ingénieur et qui a écrit notamment L'âge des low-tech, c'est sur le manque de modèle économique, vraiment sur comment on opère cette transition et comment on passe de notre modèle économique actuel qui est fondé sur la croissance et sur laquelle reposent des tas de mécanismes sociaux indispensables à notre fonctionnement actuel. Je pense notamment aux retraites ou à l'assurance chômage, etc. Tous ces systèmes-là, comment on peut arriver à les faire fonctionner dans un autre système économique, et notamment un système économique de décroissance, qui est un mot qu'utilisent plusieurs interlocuteurs qu'on a rencontrés, qui préfèrent parfois utiliser ce terme-là encore à celui d'effondrement, puisqu'ils disent voilà, l'enjeu c'est celui-là. On sait aujourd'hui qu'il faut produire moins, il faut consommer moins. Ça veut pas dire qu'on sera plus malheureux, on consommera d'autres choses, on consommera différemment, mais il faut arriver en tout cas à ce découplage entre la croissance du bien-être et la croissance des biens matériels, et ça on n'a pas encore d'équation économique et de modèle solide pour y parvenir, quoi. Ce que dit Philippe Bewix, par exemple, c'est que même le modèle de Green New Deal, de New Deal vert, quoi, c'est-à-dire de mettre le paquet sur les énergies renouvelables, etc., ça reste tout de même de la croissance et ça ne permet pas encore de changer vraiment de paradigme.
Très bien, l'aquabonisme que vous avez cité n'ayant rien à voir avec des activités aquatiques, mais tout à voir avec l'aquaboniste de Serge Gainsbourg qui dit toujours « à quoi bon, à quoi bon ?». Alors concrètement, comment se traduit la crainte de l'effondrement pour des citoyens lambda? Que font-ils pour tenter d'éviter le pire? En quoi cela impacte-t-il leur mode de vie, leur quotidien, leur habitat? Nous répondrons à toutes ces questions dans le prochain épisode de Podcasting, la deuxième partie donc de notre série consacrée à votre dossier, paru dans Rue 89 Bordeaux, et qui s'intitule « Le monde d'après peut s'effondrer ». Et c'est pas triste. Merci beaucoup, Simon Barthélémy.
Merci.
D'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cet épisode de Podcasting. Merci à Anne-Charlotte Delange, Mathilde Leuil et Marion Ruot qui m'ont aidé à préparer cet épisode, ainsi qu'à Gabriel Taïeb qui l'a réalisé. Podcasting, c'est le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux, ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Deezer, Apple Podcasts ou Spotify. Podcasting, c'est l'actu dans la poche.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.